Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que nous allons consacrer aux ostensions du Dora. Pour cette séquence, nous avons utilisé les ouvrages suivants. Les ostensions et la religion populaire en Limousin de Michel Praneuf, le numéro spécial Ostensions du Sillon de 2016, la vie illustrée de Saint Israël et de Saint Théobald de l'abbé Payet, les ostensions, une étude de Johannes Plantady et la société rurale en Limousin et basse marche d'Albert Goursault.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Voici quelques extraits d'un témoignage paru dans la revue Les Mousies de l'année 1912 qui relate les ostensions de 1911. Un témoignage et une étude de Johannes Plantady sous le pseudonyme de Pierre Lécural. C'est en 1659 que commencèrent les premières ostensions de Rachonne. Et elles n'ont jamais cessé d'être célébrées avec le plus grand éclat, sauf en 1799. Le jeudi de la mi-carême, on procède à la bénédiction et à la présentation du grand drapeau ostensionnaire, vert et rouge, avec croix dorée, armoirie de l'abbatiale du Dora, drapeau offert par la municipalité. Au son des tambours et des fanfares, il est, après la messe où il est béni, promené dans toute la ville par le personnel de l'église, conduit chez les principaux notables qui baisent ses plis, puis, sur le soir, au son des cloches, il est hissé au faîte du clocher. L'originalité des ostensions du Dora, c'est la participation des paroisses environnantes dont les habitants ne viennent pas en curieux, mais en cortège. Ce ne sont pas seulement les ostensions du Dora, mais celles de toute la contrée. Ces fêtes comprennent deux grandes solennités. L'ouverture, qui autrefois se faisait le mardi de Pâques, mais est depuis longtemps reportée au dimanche de Quasimodo. Et la clôture, plus importante, qui a lieu le dimanche de la Trinité. Et en 2016, pour ses 51e ostensions, ce sera ce week-end, le 22 mai 2016. La veille de l'ouverture, le dimanche de Quasimodo, on procède à la vérification des reliquaires en présence des gardes d'honneur et du public, alors que les cloches sonnent et que le canon gronde. Le lendemain, un immense cortège parcourt les rues du Dora, pavoisées et enguirlandées au milieu d'une affluence nombreuse de curieux. Non seulement les Dorachons, le clergé, les confréries et sociétés y prennent part, mais aussi les paroisses voisines. En 1911, on en compta 40. Elles se rendent au Dora avec des croix, des statues, des drapeaux, des bannières, mais aussi des gardes d'honneur en uniforme et en armes, des tambours, des clairons, vêtus en zouaves, en turcs, en pages, en chevaliers, d'autres figures des saints, des anges, des rois, des chefs de guerre. Les jeunes filles vêtues de blanc, parées de couronnes et de fleurs, représentent de longues théories de vierges et de martyrs, symboles de l'Ancien et du Nouveau Testament, des scènes de la Passion, des mystères, etc.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Voici ce que font la plupart des gardes armés dans chacune de leurs paroisses. La garde armée, ici, c'est celle de Dinsac. Elle se rend au pas cadencé, au domicile du maire et des élus. Une salve va être tirée en l'honneur de monsieur le maire. Approvisionné, chargé, prêt. Feu. Et la scène se répète ainsi devant la plupart des foyers de la commune. Et bien sûr, vous vous en doutez, tout se termine par un bon casse-croûte. En souvenir des premières ostensions du Dora autorisées en 1659 par l'évêque de Limoges, François de Lafayette, une garde à cheval en uniforme de mousquetaire vient chercher les délégations des villages voisins aux portes de la ville reconstituées à l'occasion en bois et en contreplaqué et les accompagne jusqu'à leur entrée dans la collégiale. Mais c'est surtout à la porte bergère que les délégations sont accueillies par un piquet d'honneur. Comme au temps où l'on se méfiait des hôtes que l'on introduisait dans les murs de la cité, un représentant des autorités s'écrie « Qui vive ?»« France », répond-on. « Quelle paroisse ?» Et la délégation décline alors son identité, Blanzac, Darnac, Azalery. « Que venez-vous faire avec ces gens armés ?» Vénérez Saint Israël et Saint Théobald. Vos fusils sont-ils chargés ? Non point. Et escortée de gardes, la délégation est conduite jusqu'à la place de l'église où le curé accueille et bénit son collègue et les nouveaux venus. Puis, chacun rend les honneurs aux reliques placées à l'entrée de l'église. Cette église, c'est la collégiale du Dora. Et il est à noter que cette collégiale peut accueillir plus de 1000 personnes et davantage encore lorsque les bancs sont enlevés pour la cérémonie de clôture. Mais c'est cette procession de clôture qui est la plus magnifique et la plus impressionnante. À la procession de la clôture prennent part toutes les paroisses du Dora et des environs, avec leurs gardes d'honneur, confréries et groupes. Elle se déroule magnifique, précédant les reliques de Saint Israël et de Saint Théobald que soutiennent sur leurs épaules les membres des confréries de ces saints, suivis du clergé en chasuble et en dalmatique, portant les chefs vénérés dans des coupes et le monumental reliquaire de la vraie croix. Et au milieu de l'allégresse générale, des cantiques et des chants liturgiques, des sonneries de cloches et de clairons, de la musique et du bruit des tambours, la pompe se déploie, passant sous des arcs de triomphe, dont le dernier, sur la grande place, couronné d'un dôme majestueux, retient les porteurs de reliques pour la bénédiction finale. Suivons un moment le cortège majestueux qui défile dans les rues pavoisées et enguirlandées dont les façades des maisons disparaissent sous la blancheur des linceuls paradours, c'est-à-dire des draps de lit de parade, au milieu desquels, piqué, s'épanouit une fraîche fleur. Voici Verneuil-Moutier et Tersanne, avec leurs tambours et clairons, leurs gardes d'honneur en pantalon blanc, avec la bannière de Saint-Marc qu'escortent des pages avec les groupes des saints innocents du rosaire à trois couleurs, des vierges en blanc. Voici la Baseuge qui vit naître Théobald, un des saints vénérés, sa garde d'honneur avec tambour et clairon est formée de lanciers et de fusillés. Voici Azalery avec sa garde d'honneur en béret blanc à pompons rouges, avec Simon le Cyrénéen aidant Jésus à porter sa croix, avec les saints mystères douloureux conduits par l'ange de l'Annonciation. On y trouve même Sainte Cécile portant sa harpe et une palme. Voici Tia, qui porte les écharpes tricolores, Darnac avec ses uniformes de marin, Saint Léger Magnésé et Dom Pierre les Églises avec sa garde en costume de chasseurs alpins. Voici encore Bussière Poitevine, dont on admire la légion thébéenne vêtue et armée à la romaine. C'est maintenant le tour de Château-Ponsac avec ses anges, avec Jeanne d'Arc à cheval, Saint-Louis et les chevaliers croisés. Blanzac, qui présente Saint-Martin. Bessines et Mézières-sur-Issoire, qui symbolisent la France, l'Alsace et la Lorraine. Darnac, avec Saint-Louis et son escorte, et un trophée conquis sur les Turcs, porté par un émir captif. Drou, qui présente Sainte-Valérie. Peyrat de Bellac, qui nous symbolise la France du XIIIe siècle. Rancon, c'est Jeanne d'Arc, avec ses voix. Saint-Ouen-sur-Gartempe et l'ancienne paroisse de Mounimes, c'est encore Jeanne d'Arc, mais aussi Sainte-Élisabeth de Hongrie, suivie d'une croix de lys, fougères et azalées, rappelant le miracle des fleurs. Enfin, pour terminer, voici l'odorat. L'odorat, c'est bien sûr la plus importante représentation. Les élèves des écoles libres, les membres des patronages et des confréries dévotes forment de longues théories blanches et noires, au milieu desquelles se voit le Christ portant sa croix que des anges accompagnent. Beaucoup de représentations des saints, de saint Pierre, de saint Martial, de sainte Radegonde et aussi de Jeanne d'Arc. Un petit bataillon de zouaves. La garde du Dorat avec ses cavaliers romains. Le Dorat, à l'époque, possède une école de dressage. Ses sapeurs, son tambour-major, sa clique, ses sociétés musicales. Puis le clergé, les bannières et les châsses que portent les confrères revêtus de leur écharpe rose et verte. Les chefs reliquaires et la vraie croix. On trouve encore les mutualistes encadrés par les gardes d'honneur en costumes variés, armés de fusils et de sabres, et les noëlistes portant une croix blanche et bleue avec étoile d'or. Ensuite, les membres de la confrérie des saints, et en particulier de saint Théobald et de saint Israël, remettent en place les reliques qu'on ne ressortira que dans 7 ans.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Saint Israël et saint Théobald sont donc les deux saints du Dorat vénérés par les ostensions. Et qui sont ces deux saints? Nous empruntons les informations à la confrérie de saint Israël et de saint Théobald. Saint Israël serait sans doute né au Dorat, à la porte de Dinsac, dans une famille noble et religieuse. On le retrouve chantre de la communauté de chanoines fondée par Boson, le futur comte de la Marche, en 987. Après sa formation, il fut reçu chanoine, fut ordonné prêtre et devint vicaire général de l'évêque de Limoges. Il enseigna aussi la théologie et rédigea une vie versifiée du Christ en langue limousine. À noter qu'il fut particulièrement actif pendant l'épidémie de peste de 994, il soigna les malades et ensevelit lui-même les morts. En 1006, il revint au Dorat, où il fut grand chantre pour y former de nombreux disciples, dont saint Théobald. Il mourut au Dorat le 22 décembre 1014. Par la suite, des miracles se réalisèrent chez certains des pèlerins qui se pressait sur sa tombe. Saint Théobald, lui, serait né en 990 au lieu-dit Le Chay, sur la Brame, dans la paroisse de l'Abazeuge, ce qui explique que les représentants de l'Abazeuge viennent dans les premiers rangs de la procession des ostensions. Fils d'une famille de cultivateurs, ses parents le confient au chapitre du Dorat où il fait rapidement de tels progrès qu'il dépasse tous les enfants de son âge. Il séjourne ensuite à Périgueux où il fait de brillantes études. Il revient au chapitre du Dorat où il décide par humilité de rester diacre. Malgré sa jeunesse, il est chargé de l'administration de la collégiale, dont une partie seulement à l'époque est ouverte au culte, l'autre étant encore en travaux. Il s'acquitte, disent ses contemporains, de ses obligations de sacristain et de sa mission de gardien du trésor et des biens sacrés avec piété et foi. Il devient infirmier du couvent et agit beaucoup en direction des enfants et des pauvres. S'il est un homme d'action, il est aussi un homme de prière, passant même des nuits entières dans l'église. Sa vie de jeûne et de piété l'épuise, il tombe malade et meurt le 6 novembre 1070 au Dorat. Il est enterré près de son maître Israël dans l'humble tombe du cimetière commun. Ses reliques seront translatées en 1130, en même temps que celle de saint Israël, dans l'église collégiale nouvellement construite. Et en 1659, les ossements de Saint Israël et de Saint Théobald ont été mis dans les châsses de bois doré actuelles, conservées dans les chapelles du déambulatoire.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Alors, qu'est-ce que c'est que ces ostensions où l'on donne à voir les reliques de Saint Israël et de Saint Théobald et de quelques autres, où l'on se déguise en ange ou en saint, comme en soldat avec fusil ou en sapeur, où l'on défile, ou plutôt où l'on processionne au son de la musique religieuse comme de la musique des fanfares, où l'on organise une manifestation aussi bien religieuse que folklorique, où l'on met en marche, en action, toute une population d'un vaste secteur, celui de la commune du Dorat, comme des paroisses circonvoisines. Je reprends la définition du premier bel de la grande confrérie de Saint-Martial. Les ostensions limousines, nous dit-il, sont des manifestations religieuses millénaires et spectaculaires, particulières au diocèse de Limoges. Le mot « ostension » signifie « montrer »,« donner à voir », »,« présenter », du latin « ostendere », c'est-à-dire « action de montrer », »,« exposition de reliques » en langue liturgique. C'est une sortie des reliques des saints de leur reliquaire et de leur châsse au cours d'une célébration chrétienne pour les montrer, les lever et les donner à la vénération du peuple rassemblé. À cette occasion, la population renoue avec une tradition apparue pendant le Haut Moyen-Âge. Ces cérémonies avaient pour but de conjurer les fléaux et les épidémies. On sait que, pendant tout le Moyen-Âge, les populations d'Europe furent décimées plus encore que par les guerres, par les épidémies que l'on considérait comme des châtiments divins. Quand ce n'était pas la peste, c'était le mal des ardents qui faisait périr les gens dans des souffrances évoquant les feux de l'enfer. C'était de l'ergotisme gangréneux, une fièvre ardente provoquée par la consommation de farine contaminée par l'ergot du seigle. On l'appelait encore le feu de Saint Antoine, car on croyait que seul ce saint était capable de guérir miraculeusement les malades. Chaque fois qu'une épidémie du feu sacré frappait le pays, on demandait donc l'intercession de Saint Antoine ou d'autres saints régionaux. Et ce fut le cas à Limoges en 994, alors que l'on vivait dans la grande peur de l'an 1000. Le 12 novembre 994, après avoir décrété un jeûne de 3 jours, le clergé de Limoges exhuma les ossements de Saint Martial, ainsi que les reliques de Sainte Valérie, et les porta en procession de la basilique du Sauveur à la colline de Montjovis. On vendit alors à la population des boîtes dévotes contenant une médaille bénite ou du coton ayant enveloppé les os des saints dans leur tombeau. Et les documents de l'époque disent que l'épidémie cessa par miracle. 7000 personnes furent guéries. À chaque calamité, on recommença cette procession des ossements des saints, les ostensions étaient nées. Par la suite, on organisa aussi des ostensions pour appeler à la paix à un moment où les guerres ravageaient le pays. Les ostensions étaient nées, mais le terme, lui, n'apparaît cependant qu'au XIIIe siècle. Elles seront organisées tous les 7 ans au Dorat, rappelons-le, à partir de 1659 et à l'exception de 1799. Pourquoi tous les 7 ans? Sûrement parce que le chiffre 7 a une forte valeur symbolique. Les 7 planètes, les 7 jours de la semaine. Dieu créa le monde en 6 jours et se reposa le 7e. À noter donc que les ostensions sont aussi censées marquer le début d'une période qu'on espère faste. Les ostensions et le culte des reliques. Les ostensions, on le voit, sont organisées autour de la dévotion aux reliques. C'est l'élément fondamental qui n'est pas sans analogie avec le culte des morts. Si on honore les morts comme il convient, ils peuvent se montrer bienveillants. Le culte des ancêtres, on le sait, est un défi à l'oubli et exprime la continuité d'une communauté à travers les générations. L'exhumation des os et l'ostension des reliques sont de même nature. Et c'est aussi le témoignage que l'on n'oublie pas les vivants et pour les ostensions, on honore les morts les plus méritants et les plus exemplaires. Ceux que l'on considère comme des saints et dont les restes ont une valeur sacrée. Odora, Saint Israël et Saint Théobald dont nous avons parlé, mais aussi Saint Gautier, élève d'Israël et contemporain de Théobald, et Claude Barnabé Laurent de Masclou qui vécut au XIIIe siècle. Pour fortifier leur foi, pour fonder leur croyance, les chrétiens ont besoin de preuves tangibles, de témoignages. Les objets qui ont appartenu aux saints et a priori leurs chefs sont censés receler quelque chose de sacré, irradier une puissance magique et contagieuse, mais nous sommes parfois dans une religiosité intermédiaire entre la foi et les superstitions. C'est une grande question que nous reprendrons dans l'émission que nous consacrerons aux bonnes fontaines à guérison de la Basse Marche. Ajoutons que les spectateurs, comme un nombre important de participants, ne sont pas tous, loin s'en faut, des chrétiens. C'est dire que la fête des ostensions a une fonction sociale importante. La dévotion limousine qui s'exprime en particulier par les ostensions est indépendante de la politique et souvent même de la pratique religieuse. C'est un peuple qui se retrouve lui-même et renoue avec son histoire et ses origines.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
La fonction sociale des ostensions est grande, nous dit Michel Praneuf dans son ouvrage « Les ostensions et la religion populaire en Limousin ». Et les confréries organisatrices des ostensions continuent à recruter de nouveaux membres, les choisissant en fonction de leur position sociale, de leur moralité, enfin, ou plutôt de leur honorabilité, de leur dévouement et de leur générosité. Être confrère, c'est avoir le sentiment d'appartenir à une élite sociale. Les confréries, les comités d'organisation des ostensions convient tous les habitants de la cité et des paroisses à participer activement à la préparation des ostensions. Les tâches sont nombreuses. Les finances, les relations publiques, la publicité, la décoration, la fabrication des costumes, la préparation des chants, la préparation du défilé. Les habitants, bénévoles, sont mis à contribution quelles que soient leurs convictions religieuses. Chacun a cœur de prendre part, selon ses capacités, à cette grande entreprise dont la portée sociale est considérable. Les réunions préparatoires permettent de faire connaissance, on voit du monde, on se présente, on cause. La première de ces réunions permet de voir des films ou des photos des précédentes ostensions, de faire des commentaires, d'évoquer des souvenirs, de se rappeler des disparus. À chacun est attribuée une fonction. Les hommes, selon leur spécialité, s'occupent de la menuiserie, de l'électricité, de la sonorisation. Et le moment venu, ils iront abattre arbustes et branchages dans la campagne environnante et installeront les décorations des rues. Les femmes découpent les guirlandes de papier, cousent les costumes historiques en satin et en coton. Les familles réunies autour des châtaignes, du vin blanc ou des tisanes retrouvent l'ambiance des veillées d'antan pendant les soirées d'hiver. Et les membres des chorales répètent les cantiques. Ainsi, le projet collectif redonne vie à la communauté là où le tissu social n'a que trop tendance à s'effilocher à l'époque moderne. Il est à noter encore qu'à l'occasion des ostensions, on se rencontre, on invite des parents, des amis, on se retrouve. Dans chaque famille, quelqu'un a une tâche à remplir dans l'organisation ou un rôle à tenir dans le défilé. Et à noter que le jour des ostensions, les Limousins qui se sont expatriés, qui sont allés vivre en ville, reviennent au pays, retrouvant avec émotion les souvenirs d'enfance, des visages connus, la parenté.
Saint Israël, oh que ta vie est belle, tu fus fervent comme un ange de Dieu.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que nous avons consacrée aux ostensions du Dora. Nous l'avons fait en compagnie de Michel Praneuf, de l'abbé Paillet, de Johannes Plantady, d'Albert Gourceau et du journal Le Sillon. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au groupe Terra Maieré, Au Ciel, Maluzerne, à la procession des pénitents feuilles mortes, à la fanfare des ostensions du Dora, au chant de Thésée 2013 et au cantique à Saint-Israël et Saint-Théobald que nous écoutons en ce moment. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Saint-Théobald, de ton maître l'honneur, grand comme lui, tu devins le modèle des clercs pieux consacrés au Seigneur.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la basse marche.